I know you can't. Every sentence we Amen. Venons de lire, frère, l'évangile de Saint-Luc, chapitre 12. Verset 36 à 48. Et oui, et Jésus dit, voilà quand il reviendra. C'est beau parce que c'est la première fois depuis 2 ans que vous faites, vous joignez à nous pour la prière entre minuit et 3 heures du matin. C'est aujourd'hui.
Depuis 2 ans, vous présentez le Père.
À peu près, oui. Et ça tombe sur l'évangile où Jésus dit, je reviens entre minuit et 3 heures du matin. Verset, c'est pas, chapitre Saint-Luc, chapitre 12, verset 3 fois 12, c'est-à-dire 36 à 48, c'est-à-dire 3 fois 12 et 4 fois 12.
Je suis venu pour Pâques, je suis bien venu pour Pâques.
Et oui, mais ça faisait longtemps quand même.
5 jours. Que...
C'est formidable. Et ça tombe juste sur l'évangile. Quand le Christ, quand je reviens, ce sera entre minuit et 3 heures du matin.
J'ai entendu.
C'est marqué dans l'évangile de Saint-Luc. Quand il reviendra entre minuit et 3 heures du matin, s'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. Et vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. C'est aussi l'heure du voleur aussi. C'est l'heure de l'Antichrist, c'est l'heure où il profite de la nuit, de la passivité, etc., du fait que tout le monde est un peu endormi. Et donc, ceux qui sont vigilants, c'est ceux qui empêchent le voleur de rentrer dans la nature humaine, dans les innocents, dans les gens qui ne savent pas. C'est pour ça que Saint-Hildegarde, elle prend ce texte, en disant, c'est entre minuit et 3 heures du matin qu'on repousse le démon. Dans l'aquilon, dans le vide, qui lui réservait, quoi, pour le vider de toutes ses présomptions. Alors, c'est pas simplement une fois ou trois, deux fois par an que, non, les vigilants, les croyants font l'effort. C'est parce qu'il y a 365 jours dans l'année, quand même. Mais toutes les nuits.
On va y arriver bientôt.
Toutes les nuits, il y a cette espèce de vigilance, il y a cette prière, on prend la place au moment où le trou dans la maison permet au voleur de rentrer. Je trouve ça beau d'entendre cet évangile aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même le 19e dimanche du temps ordinaire. C'est vraiment la semaine de Saint-Joseph dans tout le cycle liturgique de l'année, le 19e dimanche, la 19e semaine. 19, tout le monde sait que 19, c'est Saint-Joseph. Alors, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. On fait le tour, quand on fait autorité, ce qui est proposé, c'est avec la manière de Saint-Hildegarde, et la manière aussi du Saint-Père, du pape Jean-Paul II et de Benoît XVI, puisque c'est eux qui ont soulevé et la formulation.
Il est bien écrit, là, celui-là.
Ouais. C'est eux qui ont soulevé cette formulation, qui est une formulation qui correspond à la spiritualité du monde nouveau. Et on va vivre non pas de notre volonté humaine, mais de la volonté éternelle, brûlante, vivante du Père. En vivant de ce fiat éternel et divin, de la volonté éternelle du Père, à ce moment-là, on ne fait plus jamais, on abandonne complètement notre volonté humaine et on inscrit du coup la volonté éternelle de Dieu dans chaque élément de la création, dans chaque respiration, chaque parole, chaque regard de Jésus, Marie, Joseph. Et puis aussi chaque fruit des sacrements dans la Jérusalem glorieuse et bénie. On fait les 3 tours de la création, de la rédemption et de la divinisation. Et avec tout ça, on le recueille dans Jésus en nous. Et avec cette autorité, on écarte de minuit à 3 heures du matin, on écarte le mal. C'est quand même très très fort. Très fort. Parce que chaque mot compte. Alors ça coule tout seul. Et le mal s'écarte. Les gens reçoivent, les musulmans reçoivent l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus par millions et par millions, chaque nuit. Chaque nuit, ils en ont plus conscience. Les Yéhoudis, les gens de bonne volonté, les juifs de bonne volonté, se sentent libres, pas du tout obligés de rester liés à la haine du Messie. Au contraire, un amour de Jésus qui revient, de Jésus, fils d'Israël, de Jésus qui revient avec les nuits du ciel. Il y a tous les enfants qui sont... Il y a
aussi longtemps parlé du prêtre. Aussi longtemps, tu dis, c'est pas possible.
Il parle du prêtre, oui.
Autant. Tout le monde, toutes les radios, cette fois, c'était unanime.
Oui, oui. Ben oui, parce que c'est les... Il y a une espèce de réveil, quoi, de la France. De la France. La France, elle est sacerdotale, elle est victimale, elle a la sagesse des âges, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc il représente vraiment quelque chose, lui, c'est sûr. Et les enfants, du coup, avortés, crucifiés, égorgés, il les représente largement, on peut dire. Et toute cette la nuit, comme ça, de minuit à 3 heures du matin, ils sont, il y a un réveil qui se fait. Il y a un réveil de ceux qui sont évidemment de bonne volonté. Il y a un réveil qui se fait. Et c'est beau que de savoir que c'est quand même... Apostolique, c'est chapitre 12. C'est chapitre 12, c'est l'apostolat des derniers temps. Verset 36, donc 3 fois 12. Quand on voit que Jésus vient entre minuit et 3 heures du matin. Ah! Parce que 3 fois 12, c'est l'âge de 36 ans. Quand elle avait 36 ans, Jésus a été crucifié. Mais 3 fois 12, c'est aussi l'apostolat de la charité. À un moment donné, l'apostolat, voilà, avec le verset 3 fois 12, ça veut dire des derniers temps, est un apostolat de la charité, quoi. Et c'est entre minuit et 3 heures du matin. C'est beau de savoir ça. C'est Saint-Hildegarde qui explique pourquoi c'est comme ça. Alors, on va méditer quand même le Saint-Esprit. Enfin, on nous propose la méditation, une méditation de Robert de Langeac. Il n'a pas été canonisé. De même que la pierre tend par son poids au centre de la terre et s'y précipiterait d'elle-même comme au lieu de son repos définitif. Si elle ne trouvait pas d'obstacle dans les croûtes terrestres, ainsi est bien mieux encore, ô mon Dieu, mon âme tend vers vous de tout le poids de son amour. Dans ce mouvement qui la porte vers vous, on peut compter des centres successifs, jalons d'étape, points de repos provisoire, d'où l'âme s'élance de nouveau vers vous, ô mon Dieu, avec une plus nette vision du but, un amour plus impatient, des désirs plus avisés qui donnent à sa marche en avant une mystérieuse accélération. Mais d'étape en étape, de demeure en demeure, de centre en centre, l'âme enfin arrive jusqu'à vous. Son mouvement s'arrête à l'intérieur de vous, en son centre. Il n'a plus sa raison d'être puisque l'âme est parvenue au terme de ses désirs et de sa route. Elle est au but, elle s'y repose, dans la paisible et définitive possession de son trésor et de son tout. Si nous ne te recherchons plus, si nous ne vous cherchons plus, puisqu'il n'y a plus autre chose à chercher, c'est la possession, la fruition qui commence. Et c'est l'intimité profonde, c'est le mariage, c'est la communion parfaite. Et une autre chose qui me frappe, figurez-vous, c'est que quand on a lu l'épître, on voit que Abraham a cru par la foi, il était très 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 vieux, et Sarah aussi était très 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 âgée, et par la foi ils ont conçu un enfant, Isaac, et ça a fait une multitude, une descendance plus nombreuse, plus innombrable que les étoiles du ciel, et plus innombrable que le sable de la mer. C'est très fort ça. Ce qui est très fort, je trouve, parce que quand on voit une chose aussi, on remarque une chose, c'est que la différence... Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas la même chose de Noé? Parce que c'est à partir de Noé qu'il y a eu la multitude des hommes d'aujourd'hui. C'est pas à partir d'Abraham. On ne dit pas, par la foi, Noé a engendré une multitude aussi nombreuse que celle du ciel. Mais on le dit d'Abraham. Pourquoi Abraham? Pourquoi Isaac? Pourquoi? Parce que Abraham a engendré une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Parce qu'il a sacrifié Isaac. Il a sacrifié le Fils unique. Parce qu'il croyait dans la résurrection. Il croyait dans la mort et la résurrection. Il savait que c'était une volonté éternelle de Dieu de sacrifier le Fils unique de Dieu dans sa chair. Et par la foi, d'être source du mystère de la Pâque et de la résurrection, à partir de la mort et de la crucifixion du Messie. Donc Abraham a vu le Messie. Il a vu que le Messie, par la foi, c'était Dieu vivant, qui devait, comme Dieu vivant dans la chair, en fils de l'homme, être sacrifié et ressuscité ensuite. Tandis que Noé, lui, il n'a pas vu ça. Noé n'a pas sacrifié son fils. Ce qui montre bien que la multitude des cieux et la multitude du sable de la mer signifie autre chose, quoi, que le nombre des hommes qui sont sur la terre. Ça signifie autre chose, ça signifie le nombre des hommes qui vont peupler le ciel et qui vont peupler le mystère de la résurrection. Parce que le sable de la mer, c'est quand on sort de la mer, c'est-à-dire on sort du temps. On touche le sol solide de la résurrection. Et quand, aussi nombreux que les étoiles du ciel, on est avec le monde angélique. On est le même nombre que le nombre angélique. On est le même nombre. C'est par la foi, on est engendrant de la nature humaine tout entière qui doit aller au ciel. Et la nature humaine qui ne doit pas aller au ciel, qui se condamne à l'Aquilon, n'est pas comptée comme la descendance d'Abraham. Elle n'est pas du tout comptée. Ce qui montre bien que par la foi, et je trouve ça très très fort, parce que je rejoins Saint-Hildegarde quand je dis ça, et je rejoins aussi Saint-Jean de la Croix, dit que quand on est dans la cinquième sceau de l'Apocalypse, et Saint-Jean de l'Apocalypse aussi, aussitôt on devient le père d'une multitude. On devient le père de la multitude elle-même, on devient le père l'engendrant, on a une fécondité sur la nature humaine, toute entière, pas seulement sur les gens pour qui on prie comme ça. Mais notre prière de la nuit, entre minuit et 3h du matin, c'est pour se préparer à l'ouverture du cinquième sceau, dans lequel on porte dans nos mains directement et sans voile toute la nature humaine. Toute la nature humaine. Et si on ne s'entraîne pas à faire ça, entre minuit et 3h du matin, le jour de l'avertissement, eh bien, on recevra un petit nombre de coups. Ou un grand nombre de coups, puisqu'on le savait. Et la différence entre ceux qui reçoivent un très grand nombre de coups et ceux qui reçoivent un petit nombre de coups, c'est que ceux qui reçoivent un petit nombre de coups n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas. Parce qu'à qui on a donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Mais Jésus précise, c'est qui a reçu beaucoup et à qui on demande beaucoup, mais c'est celui qui le sait. Celui à qui on n'en a jamais entendu parler, eh bien, c'est qu'il n'a pas reçu beaucoup. Mais celui qui le sait, il a entendu, il le sait. Et donc recevoir beaucoup, c'est d'avoir été choisi pour entendre la doctrine de Dieu, pour entendre la révélation de Dieu, pour entendre la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime pour notre temps. Il y a quelques-uns qui ont entendu ça, et puis qui partent, j'allais dire, on dit, oh, c'est mieux de dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir.
Travailler quand même.
Non, mais moi je te parle de l'évangile. Je te parle de l'évangile. Ils disent, oh, bon, il tarde à venir, alors, il dit, ils vont manger, boire, s'enivrer, dormir. Il n'y a rien d'autre. Manger, boire, s'enivrer, dormir, c'est tout. Ils le savent en plus. Alors, manger. Ceux qui ne le savent pas, bon, bah, ils mangent, ils dorment. Je te dis. Mais tu reçois beaucoup parce que tu le sais. Nous, quelque part, il y a quelque chose de savoir que nous faisons partie des catholiques de ceux qui savent parce que le Saint-Père a donné sa titre de garde. Le Saint-Père a donné ce titre de garde, donc on le sait, ça. Personne n'ignore, quand on est catholique, que le Saint-Père a donné sa démission. Pour dire, maintenant, c'est un titre de garde. Qui l'ignore, ça? Nous, les catholiques, on le sait. On sait pourquoi, aussi. Alors, évidemment, si au jour de l'avertissement, on a dit, oh, il faut quand même manger, on est quand même fatigué, hein. Il faut boire, hein. Il faut dormir. Mais c'est. Tu te rends compte à Abraham s'il avait fait comme ça, non, tout de suite, là, c'est jour et nuit, et il a fait ce que Dieu a demandé, uniquement ce que Dieu a demandé. Il a demandé de sacrifier le Fils unique. Quand Abraham, la formulation de l'épître d'aujourd'hui est extraordinaire quand même. C'est par la foi qu'Abraham a sacrifié ça. En sacrifiant Abraham, il a sacrifié le Fils unique. Le Fils unique, il a sacrifié. Ça veut dire que par la foi, il savait qu'en sacrifiant son fils Isaac, en fait, il faisait l'acte de sacrifier d'un père qui sacrifie son fils pour le salut du monde et qui engendrait la résurrection pour la nature humaine tout entière. Et s'il n'avait pas fait ça, la foi n'aurait pas, pendant 1200 ans, plus que ça d'ailleurs, pendant 1900 ans, la foi n'aurait pas cheminé pendant 19 siècles de telle manière que la nature humaine puisse aboutir à l'engendrement du Fils unique de Dieu. Parce que si Abraham par la foi l'a fait, Dieu était obligé de le faire. Si Dieu l'a fait à l'intérieur d'Abraham pour le Fils unique, c'est-à-dire son Fils unique Jésus-Christ, et Isaac ne servant que de sacrement et c'est tout. Il ne servait que de sacrement. Il ne faut pas oublier que Jésus le dit, ça. Abraham m'a vu.
Et il s'est... 19 siècles encore.
Abraham m'a vu et s'est réjoui.
Et on est à les 19 siècles. 1900.
Entre Abraham et Jésus, il y a 19 siècles. Et puis ensuite, après la mort du premier apôtre, et nous, la mort du premier apôtre, c'est Saint Jean, qui est mort à peu près vers l'an 110, on pense, après Jésus-Christ. Et il est mort très, très âgé, hein, il est mort vers
19 siècles.
Et ça fait donc, on est à peu près, oui c'est ça, en 2011, 2012, on est à peu près 19 siècles, 1900 ans, à un ou deux ans près, quoi. En 2012, mais là on est...
Qu'est-ce qui se passe ?
On a passé 2012 maintenant.
Il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a rien qui se passe, il y a quand même eu, si, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a eu quand même des événements eschatologiques très très importants, puisque c'est en l'an quand même 2005 que Shikutsi Meshomem a marqué la fin du temps de l'histoire, au niveau métaphysique et au niveau divin. Dès lors que les hommes ont marqué la guerre eschatologique pour la destruction du temps, la destruction de l'humanité, la destruction du Saint des Saints, ça, c'était en 2005, et donc ça fait bien 19 siècles. Si vous rajoutez 7 ans à ça, vous aboutissez à quoi? Eh bien, vous aboutissez à la fameuse loi, à la fameuse loi d'abomination. Et donc on est bien, le compute est bien, est parfaitement respecté, quoi. Parfaitement respecté. Alors, c'est pas qu'on ne sache pas, on le sait. Mais Il se trouve qu'il y a chez les catholiques, chez les chrétiens, chez les baptisés, qui se confessent, qui communient, qui font oraison. Il y a, et j'en connais malheureusement, qui disent, oh oui, mais écoutez, laissez-moi, moi je suis fatigué, moi je mange, je bois, je dors. Je sais bien que c'est en ce moment, c'est quelques jours, dans quelques semaines, je sais bien. Ben, si vous permettez, moi je dors, moi je bois, je mange. Et bon, si je suis obligé, bien sûr, je me réveille, mais si c'est pour moi, et de moi, et par moi seul, pour moi, l'amour de Dieu, non, moi je dors, je bois, je m'enivre et je mange. C'est ça ma vie. Si j'ai froid, je vais dans un pays chaud. Si j'ai trop chaud, je vais dans un pays froid. Donc c'est uniquement les choses de la. Et j'en connais. Et on en connaît. Alors évidemment, et c'est pas des gens qui ne sont pas au courant, ça, c'est des gens qui savent tout.
Qui font dans les pays chauds, on peut prier aussi, pareil.
Oui, mais c'est pour ça, s'ils vont dans les pays chauds pour se lever entre minuit et 3 heures du matin, alléluia. Mais justement, moi je parle de personnes qui, du tout, ne font pas plus dans les pays chauds que dans les pays froids, pas plus. Bon, alors, c'est pour ça. Bon, mais, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Mais je trouve que c'est extraordinaire quand même, que tout ça, c'est des indications très très fortes. Quand Abraham a sacrifié Isaac, il faut comprendre une chose, moi je comprends une chose personnellement, c'est qu'il faisait consciemment, puisqu'il avait vu Jésus, Jésus lui a dit, il m'a vu. Il réalisait comme le sacrifice du Fils unique de Dieu dans le futur Messie, Verbe de Dieu, pour le salut de la nature humaine tout entière, en sachant qu'en faisant cela, Dieu engendrerait la résurrection, puisque depuis Adam et Ève, tout le monde devait mourir. Et en faisant cela, cet acte du sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire pas du tout sa volonté humaine, mais la volonté éternelle de Dieu dans la sagesse de la croix, dans la sagesse éternelle et immaculée de la croix, il savait qu'il engendrait dans la terre la possibilité de l'union hypostatique de Jésus dans la Vierge immaculée. Il le savait, Abraham. Et c'est parce qu'il le savait, c'est parce qu'il l'a su, qu'il l'a fait. Et il l'a fait par la foi. Et les Midrash rabbiniques disent que quand il l'a fait, que Sarah l'a fait aussi. Et qu'elle aussi, elle le savait par la foi. Et que quand Isaac a été préservé, précisément parce qu'il y a eu une résurrection à cause du bouc émissaire. Jésus a été vu par Abraham sous la forme du bouc émissaire. Mais Sarah n'était pas présente sur le mont Moriah. Et du coup, Sarah est morte. Et donc, quelque part, elle savait qu'en faisant ça, elle offrait sa vie, comme Marie a offert sa propre vie. Elle a, donc Abraham et Sarah ont engendré une cause méritoire dans la foi, dans la nature humaine tout entière, pour qu'il y ait l'Immaculée Conception et pour qu'il y ait l'union hypostatique de Jésus, 19 siècles plus tard. C'est quand même très impressionnant ça, et c'est quand même très impressionnant parce que pour nous, souvent on dit, bon, les Juifs, je m'excuse, mais les Juifs, est-ce qu'il y a un seul catholique qui va arriver, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que là, à la plante du pied d'un Juif? Est-ce qu'il y en a un seul avec la grâce, les sacrements de l'Eucharistie, la confession? Est-ce qu'il y en a un seul qui arrive à la cheville d'un juif? On est des ordures à côté des juifs. On est des rien du tout. On est la honte on est la honte du peuple de Dieu. La honte. On est des paresseux, on est des lamentables. On est des infidèles. On croit juste pour pouvoir aller au ciel, mais d'aller sauver l'humanité tout entière. Ça ne nous effleure même pas. Se lever de minuit à 3 heures du matin, on nous a confié tous les ouvriers de la maison. Et on sait que c'est là qu'il va venir. On le sait en plus. Et bien le sachant, on continue à être... C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait le retour des Juifs. S'il n'y a pas le retour des Juifs, les catholiques, c'est que c'est les catholiques d'aujourd'hui. Mais le monde est fichu.
Comment retourner les Juifs?
Les Juifs doivent retourner à la grâce. si les Juifs ne retournent pas à la grâce, la conversion d'Israël, si on se plie uniquement sur les catholiques, eh bien, l'humanité est perdue. Perdue.
Pareil, ils ont fait un grand rabbin.
D'accord, alors, mais il faudrait baptiser le grand rabbin. Mais à partir du moment où on fait venir, oui, avec Mgr Barbara, mais absolument, tout à fait. Et lui, il dit, nous les Juifs, eh bien, on va se mettre dans le cœur du Christ qui revient sur les nuées du ciel. Parce que ça, c'est pour nous, ça. Ça ne peut pas être pour les catholiques. Parce que les catholiques sont indignes de ça. Et Barbarin, il a préfacé son bouquin. Ils sont indignes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, les catholiques? Ils savent tout. Ils ont tout. Et ils préfèrent manger, dormir. Ils ont la honte. Ils ont la honte de la grâce du Jésus. C'est la honte. C'est vraiment pas possible. Mais heureusement qu'il y a parmi les catholiques quelques-uns qui sont restés fidèles, quelques-uns qui sont juifs quand même. Le nouvel Israël de Dieu sur la terre, ben quand même, heureusement, il cumule quelque part la surabondance de la grâce, la conversion d'Israël, et en même temps le réveil et la résurrection de la grâce du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes. Et il rentre à l'intérieur de l'infaillibilité ouverte désormais du Saint-Père, puisque les portes sont ouvertes désormais pour l'infaillibilité d'un unique peuple de Dieu avec un seul pasteur, un seul troupeau. On rentre dans l'Apocalypse des derniers temps. On se prépare. Eh bien, il y a une chose que je trouve très, très, très forte dans l'Évangile qu'on a en ce 19e dimanche. Eh bien, il y a quelque chose qui... Le serviteur qui, connaissant la volonté éternelle du Père, n'a rien préparé. Il sait que c'est dans quelques semaines. Il sait que c'est dans quelques jours. Il sait que c'est dans quelques mois. On doit se préparer. Il sait qu'il doit se préparer. Eh bien, il n'est pas dans la grâce de la préparation, dans la grâce prévenante. N'a rien préparé. Et le sachant, il n'a pas accompli cette volonté éternelle du Père. Celui-là, ce sera vraiment l'accusé au milieu des nations. Les gens de Ninive se lèveront. Les gens de Sodome et de Gomorre se lèveront. Les gens de la reine de Saba se lèveront. Il y a eu quand même des prophéties. Il y a eu quand même des prophètes qui se sont levés, qui sont plus grands que Jonas. Hein. Plus grands que Salomon, quand même. N'a rien préparé. Ça montre bien que cette prière de la nuit entre minuit et 3h du matin, c'est une exigence de Dieu, inscrite dans l'Évangile, depuis quand même 1900 ans. 19 siècles, il y a une correspondance avec Abraham, évidemment. C'est pour l'engendrement, on doit engendrer une multitude. Et il faut qu'on s'y prépare. Voilà l'Évangile d'aujourd'hui. Sur toute la terre, dans toutes les églises, il est proclamé. Et j'espère que tous les prêtres de toute la terre, tous les évêques, disent, écoutez ce qui vient d'être dit. Levez-vous entre minuit et 3h du matin. Préparez-vous à l'avertissement au cinquième sceau de l'Apocalypse. Vous devez engendrer comme Abraham, le corps mystique vivant de Jésus vivant et entier, dans des multitudes aussi nombrables que les anges du ciel et que les sables de la terre, et la sable de la mer, au bord de la mer. Vous devez prendre conscience que désormais, ce n'est plus une sainteté à la mesure de votre petite volonté humaine d'aller au ciel, et que les autres, ben, ça ne fait rien si vous... dans le tartare, ça ne vous préoccupe pas. Tout le monde doit être, tout le monde rentrer dans le bercail, tout le monde, les éclopés, tout le monde. C'est l'Évangile, c'est la dernière trompette le dimanche d'aujourd'hui. Enfin, j'espère, on s'approche quand même du centre de la Terre. Si entre le centre de la Terre et la surface de la Terre, si tout pouvait être transfiguré comme hier, la transfiguration, si tout venait dans la croûte, l'opacité invincible du méchaume, si tout venait subtil, lumineux, impassible, agile, si on pouvait pénétrer, se laisser comme ça enfoncer dans le fond de la terre pour entrer dans le centre, qui est un espèce de soleil, et s'enfoncer, s'engloutir dans le soleil du Christ, dans le fond eucharistique du monde, Et ce soleil-là, qui s'identifie totalement au soleil éternel de Dieu, puisqu'il y a un seul soleil dans l'indivisibilité. Et une fois installé dans ce soleil-là, indivisible, fait en sorte que la communion eucharistique soit une immense, grande communion. Une infinie. Une communion infiniment grande. C'est toute la différence entre ceux qui communient et qui font une communion infiniment petite parce qu'ils le font à la dimension de leur foi, qui est toute petite, qui est personnelle, qui est humaine et qui est terrestre. Mais si ils s'enfoncent comme ça, entre minuit et 3 h du matin, en cette communion eucharistique, pour que les forces tridimensionnelles, avec l'Immaculé, avec l'union hypostatique de Jésus, avec Saint Joseph, dans les siècles de sa fécondité ineffable, emporte notre petite communion à nous personnellement, dans l'indivisibilité de Dieu, et bien l'infiniment petit notre communion devient l'infiniment grand, la communion donnée partout, toujours, et pour toujours, ici, maintenant, pour tous les temps, pour tous les lieux, à chacun, continuellement. Et inconditionnellement. Il y a ce sens désormais que l'Église catholique doit devenir catholique. Cette nouvelle Israël de Dieu royal qui commande désormais la signification des temps. Eh bien écoute, m'excuse, mais c'est ça le message du 19e dimanche du temps ordinaire. Littéralement, hein, mot à mot. Hein, mot à mot. Je n'ai pas ajouté un seul mot. Alléluia.
Ils ne vont rien entendre déjà. Ils ne vont rien comprendre.
Pourquoi
ils vont écouter aujourd'hui à la messe.
Ils ne savent pas lire.
Ils vont écouter,
j'espère, l'évangile.
Oui,
ils vont comprendre ça, puisque moi je parle français, l'évangile est lu en français.
Ils ne vont rien.
Hein?
Ils ne vont pas retenir. Ils vont mettre un grand point d'interrogation.
Eh bien, ils vont recevoir un grand nombre de coups.
Écouter ça. C'est pas dur, mais on zappe.
Et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui ont la foi, ils écoutent, et ceux qui n'ont pas la foi, ils n'écoutent pas. Creto in nonum Deo, patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilio.